RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et jusqu'à 20h, nous débriefons la 19e étape du Tour de France et nous nous intéressons évidemment à celle de demain, car cette 20e étape contre la montre de 54 km entre Bergerac et Périgueux sera tout simplement le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France avant l'étape fiesta, l'étape champagne sur les Champs-Élysées dimanche. Dans un instant, nous allons donc débattre avec Thierry Bourguignon, avec Cyril Guimard et Luc Leblanc de ce contre la montre. Pinot va-t-il résister à Perrault et Valverde va-t-il réussir à rester le dauphin de Nibali? Voilà le thème de l'un de nos débats. En attendant, à 19h06, il est grand temps de retrouver Benoît Boutron pour la deuxième édition du Journal des Sports.
RMC Sport.
Salut Benoît.
Salut Christophe, salut à tous.
Le contre-la-montre, ce sera donc demain. En attendant, c'est un Lituanien qui s'est imposé aujourd'hui.
Et tu m'as laissé le dire, merci. Ramūnas Navardauskas qui entre dans l'histoire du Tour, puisque c'est le premier Lituanien à s'imposer sur la grande boucle. Le coureur Garmin s'est imposé en solitaire sur une étape marquée par la pluie et par une chute collective à 3 km de l'arrivée. Heureusement, Thibaut Pinot a pu passer entre les gouttes, le leader de la FDJ.fr qui est toujours deuxième au classement général. Demain, il devra contenir Jean-Christophe Perrault et Alejandro Valverde sur le contre-la-montre individuel. Le podium du Tour se jouera sur cette étape.
Ben j'espère être bien, on verra demain. Aujourd'hui ça allait pas trop mal, j'ai bien récupéré de l'étape de hier. Donc demain il faudra être fort et puis voilà, il faut être meilleur que les deux autres. Ben, je pense ce soir je vais récupérer et je vais le reconnaître demain matin. C'est un chrono qui est dur mais qui est pas trop technique, donc une reconnaissance ça ira.
Thibaut Pinot avec Pierre-Yves Leroux. Vincenzo Nibali est largement en tête au classement général. Ses poursuivants sont à plus de 7 minutes. Thibaut Pinot est donc deuxième avec 13 secondes d'avance sur Jean-Christophe Perrault et 15 secondes d'avance sur Alejandro Valverde. Le foot, Didier Drogba is back.
RMC, le Mercato Show.
L'attaquant ivoirien qui retourne à Chelsea après 18 mois passés au Galatasaray, les Blues retrouvent l'une de leurs légendes, Nicolas Paolorsi.
Et oui, il avait promis aux supporters marseillais qu'il porterait de nouveau les couleurs de l'OM, mais il a finalement choisi un autre de ses anciens clubs. À 36 ans, Didier Drogba retrouve son mentor José Mourinho. Il revient parce qu'il est un des meilleurs attaquants d'Europe, confie le Special One. L'ivoirien a évolué 8 ans à Chelsea, il y a tout connu. C'est lui qui a offert la première Ligue des Champions de l'histoire du club après un tir au but réussi contre le Bayern Munich. Son bilan à Londres est édifiant, 157 buts en 341 apparitions. Il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Blues. Tout le monde connaît la relation que j'entretiens avec ce club. Je me suis toujours senti comme chez moi. Je ne pouvais pas refuser de travailler à nouveau avec José. Ce sont ses premiers mots à Didier Drogba. Il part off un contrat d'un an et devra faire face à la concurrence de Diego Costa et Fernando Torres. Mais à Chelsea, Didier Drogba n'a plus rien à prouver.
Et puis Mathieu Valbuena dit non à la Russie. Le Dynamo Moscou s'était mis d'accord avec Marseille pour un transfert de 7 millions d'euros. Mais Valbuena a refusé de signer, le Marseillais qui privilégie les pistes espagnoles et anglaises. Et puis Monaco mise sur l'avenir. Tiemoué Bakayoko, 20 ans, s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. Monaco qui versera 8 millions d'euros à Rennes. Toutes les infos transfert, vous les retrouvez sur le site rmcsport.fr. Marseille jouera bien à la Mosson. L'OM a signé une convention avec la ville de Montpellier pour son premier match à domicile. Le club refuse de payer les 8 millions d'euros annuels pour jouer au stade Vélodrome. La mairie de Marseille a fait un pas vers son club. Hier soir, elle propose de s'aligner sur les conditions utilisées à Lille, c'est-à-dire payer 5 millions d'euros par an, plus une part variable sur les recettes. Et puis la F1, Mercedes, trop rapide pour les autres. En Hongrie, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont dominé les deux premières séances d'essais libres aujourd'hui. La seule incertitude pour les deux pilotes, c'est la fiabilité de leur voiture. Depuis 2 mois, ils sont perturbés par les problèmes techniques. Alors, est-ce que ça inquiète Nico Rosberg, le leader du championnat du monde ?
Pas trop vraiment, hein. Je suis vraiment concentré de faire mon boulot, de faire le mieux. Et après, malchance ou pas, bon, Silverstone, c'est moi qui l'a eu, c'est la boîte qui s'est cassée et j'étais en tête. Hein. C'est très très dommage dans l'instant, mais après, 2 heures après, c'est oublié et c'est en avant gagnant, comme il faut dire. Hein.
Nico Rosberg avec Antoine Arlault. Et puis dans un mois, jour pour jour, débutent les championnats du monde de judo en Russie. L'équipe de France masculine qui est en stage à Oulgat jusqu'au 1er août. Hugo Legrand, vice-champion du monde en titre, est clair sur ses objectifs.
Clairement, d'être champion du monde, c'est la seule médaille mondiale qui me manque. J'ai les deux autres. Donc voilà, il me faut de l'or maintenant. Aujourd'hui, on a l'équipe pour être meilleure nation mondiale. Les filles nous l'ont prouvé depuis déjà un sacré moment, mais les garçons là se révèlent vraiment. On a fait un énorme championnat d'Europe et du coup, je pense que dans chaque caté, on peut ramener une médaille. Ouais.
Hugo Legrand avec Nicolas Paul Orsi, 19h11 sur RMC. On retourne tout de suite sur la route du Tour à Bergerac pour le final de la Grande Boucle.
Exactement, nous sommes à 48 heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il ne reste plus qu'un grand rendez-vous, un seul grand rendez-vous dans ce Tour de France. Ce sera demain le contre-la-montre entre Bergerac et Périgueux, 54 km. C'est tout simplement le seul contre-la-montre de ce Tour de France. Donc évidemment, eh bien, ça peut changer les choses, d'autant que le classement général est très très serré entre la deuxième, la troisième et la quatrième place. Il y aura demain soir un malheureux. Reste à savoir quel sera ce malheureux, Pinot, Perrault ou Valverde. On en parle dans quelques minutes avec toute la Dream Team qui m'a rejoint pour débattre, évidemment. Hier soir, c'était enflammé. On va voir si ce soir, ils sont dans la même forme. Et quand je dis enflammé, je pense évidemment à Lucho Leblanc. Ça
bien
va,
sûr,
mon Lucho?
Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr que ça va. Ça va toujours.
Ça va?
Oui.
Moins enflammé, tu m'en veux pas pour une
non,
fois?
Non, non, je suis bien. Je suis heureux ce soir puisque je suis très proche de ma région, Bergerac, le sud du Limousin, Saint-Thierry-la-Perche.
Très bien. Voilà. Et en plus, il a les valises remplies. Puisqu'il a fait des haltes dans la côte de Montpellier.
Les valises sont bien remplies. Ah oui, et là, j'ai un ami qui m'a emmené encore du bon Bordeaux. Ouais, c'est pas mal.
La voiture peine un peu à l'arrière. Hein. Je sais pas, heureusement qu'il n'y a plus de colle. Parce que je pense que tu n'aurais pas pu les franchir. Cyril Guimard également là. La voiture est vide. Et le bruit est en pleine forme.
Nous faisons un Tour de France sain.
Oui. À l'eau claire. Enfin, à l'eau claire. Pas forcément à l'eau claire.
Au raisin, c'est ça aussi. Je suis désolé. Au raisin, il est sain aussi.
À l'eau claire.
Il y en a un qui est affûté, il est chez lui, et tous les jours il roule pendant des heures et des heures à la recherche de sa forme perdue, de sa gloire d'antan. C'est Thierry Bourguignon. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs, mais c'est pas le cas, pas le cas.
Tu roules pas tous les jours en ce moment, non?
Ah non, en ce moment non, je roule beaucoup en voiture, mais parce que le boulot me le demande, mais voilà, malheureusement je peux pas préparer ma bourguille comme je le veux.
Hein? Oui, la bourguille c'est quand d'ailleurs? C'est quand? C'est bientôt là.
C'est dimanche prochain, mais le 3.
Le 3 août.
Je serai autour de Guadeloupe, moi. Je commente le Tour de Guadeloupe.
Pour
Radio Caraïbe International.
Je te change de radio. Tu vas pas.
Il nous fait des infidélités.
Tu vas pas laisser à Guadeloupe pour la bourguille, quand même.
Hein? Messieurs, c'est donc un Lituanien. Alors répétez après moi, s'il vous plaît.
Oui.
Ramounas.
Navardouskas.
Bravo. Ah, on sent que monsieur a révisé pour son passage à la télé il y a quelques instants. Ramounas Navardouskas, lituanien de son état, coureur de la formation Garmin, qui a donc surpris tout le monde, résisté au retour du peloton. Alors certes, le peloton a été victime d'une chute, en tous les cas, une partie de ce peloton, une chute qui a mis à terre notamment Peter Sagan ou encore Romain Bardet, on en parlera dans quelques instants. Mais Navardouskas a réussi un coup superbe. Alors, chose étonnante, Cyril, Navardouskas est sorti du peloton et a roulé derrière l'un de ses équipiers, qui était le dernier survivant, pourrait-on dire, de l'échappée du jour. Navardouskas, un équipier qui roule sur l'un de ses hommes, c'est quand même assez rare dans le vélo. Mais la tactique a été parfaite aujourd'hui. C'est une leçon de tactique cycliste que nous ont donné les Garmin.
Eh bien, la leçon d'une équipe qui veut gagner l'étape et pas faire des heures de télévision. On aurait pu le penser à un moment avec Slighter, qui était dans un groupe de 5, qui sort de ce groupe de 5 et on dit bon, il veut la prime de la combativité, il fait comme beaucoup d'équipes, plus longtemps on passe à la télévision et plus c'est rentable pour le partenaire et pour sa propre notoriété, même quand on sait que le peloton est tout simplement à 1 minute 30 ou 2 minutes et qu'il attend que ça se relève devant. On sait que ça rien ne peut exister. Et puis d'un seul coup, on voit un changement de tactique, puisque ses anciens compagnons avaient été rejoints. On voit un changement de tactique, puisque derrière, c'est Alex Owes qui contre-attaque, alors que Slighter est devant. Il va le rejoindre dans le classement, dans la côte de quatrième catégorie. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont rejoints. Et ressort Navardouskas. Mmh. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie volonté d'aller gagner l'étape. Et que
c'est osé quand même comme tactique. Est-ce que
non, c'est la seule qui marche.
C'est assez courant de faire ce genre de choses.
Mais non, puisqu'on est dans du temps d'antenne. Quand on est parti dans une échappée, on est là pour faire du temps d'antenne. Donc on essaye de résister le plus longtemps possible en espérant un miracle, parce que bon, on sait que de temps en temps, il y a des miracles qui peuvent arriver.
Surtout en fin de tour.
Alors que là, on sait, ils savent pertinemment que Slighter ne peut pas aller à l'arrivée. depuis le temps qu'il est parti. Et derrière, les équipiers de Sagan sont en train de gérer. Les équipiers de Renshaw sont en train de gérer.
Ils n'ont rien géré du tout.
Et
là,
puis là, il y a eu ces attaques qui ont complètement déstabilisé les équipes de sprinters. Et puis, au moment où il a 25 secondes d'avance, se produit le petit coup de pouce, cette chute à 3 km de l'arrivée, dont est victime, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs lui qui la provoque, Peter Sagan. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il peut aller au bout. C'est une vraie stratégie, condamner une échappée pour aller gagner.
Très bien. Lucho, ça t'aurait plu, toi, qu'un de tes équipiers roule derrière toi et te pique la vedette à l'arrivée?
Non, non, mais du tout. Je crois que son équipier a bien compris la situation, qu'il ne pouvait pas aller au bout de cette étape, sachant qu'il avait fait quand même une échappée et qu'il était condamné. Donc, et à partir du moment où tu es condamné, le directeur sportif derrière a certainement dû réagir pour Navadauskas, ou c'est Navadauskas qui a réagi lui-même et qui s'est dit que là il est temps peut-être de faire quelque chose. J'ai les jambes, j'y vais. En plus, en haut de la bosse de Montbazillac, la descente, elle était vraiment adaptée à un homme échappé tout seul. Il a fait la différence en bas. Il est revenu sur son coéquipier. Il a continué donc son raid. Et voilà. Après, il faut un petit peu de chance. Et
Alors Thierry, justement, est-ce que le coup de chance pour Navadauskas, cette chute dans le peloton, sans cette chute, est-ce que tu crois qu'il aurait réussi à remporter l'étape aujourd'hui?
Là, franchement, on voyait le temps, c'est quand il y a la chute, il y a même que 14 secondes, hein. Donc j'ai revu le remake de
l'arrivée
de Nîmes, hein, de Nîmes.
Oui.
Avec Bauer. Donc là-dessus, ça allait être ça allait être limite. Alors forcément, la tactique, elle est forcément bonne parce qu'il y a la gagne au bout. Mais imaginez qu'il se fasse rechoper après, juste avant comme Bauer. Bon, ben là, on aurait critiqué la même équipe. C'est toujours pareil. Quand on gagne, tout est bon.
Bourguet, tu peux pas critiquer l'équipe, le travail de l'équipe, alors que tu sais que Slighter, il va être rejoint.
Non, mais de toute façon, je ne la critique pas. Je dis que forcément, elle est bonne. Parce qu'il y a la gagne au bout.
Mais même s'il n'y a pas la gagne, elle est bonne, la tactique.
De toute façon, ils sont allés chercher quand il avait 30 mètres d'avance. Il n'avait plus que 30 mètres d'avance quand Ramunas ressort. Donc, c'était fait. Il était cuit et il a relancé la machine en espérant que, de toute façon, sur un sol mouillé, on l'a vu à Nîmes, ça passait toujours limite pour le peloton. Le peloton passe les ronds-points doucement par rapport à un homme seul qui peut prendre plus de risques, et puis là ça a été payant.
De toute façon, ils ont paniqué derrière aussi dans le peloton, parce qu'à partir du moment où t'es tout seul, tu as un kilomètre et demi de l'arrivée, ouais, mais ils ont pris un maximum de risques aussi, ils ont fauté, les leaders voulaient remonter devant, ça s'est énervé.
Il y a toujours un petit peu de nervosité derrière. Sur les ronds-points, excuse-moi, mais ils ralentissaient, ils relançaient sur les lignes droites, ils ont repris sur un bout de ligne droite, 10 secondes, juste à l'entrée de la ville.
Très bien. En tous les cas, tactique gagnante pour la formation Garmin. Navardauskas, premier lituanien à remporter une étape du Tour de France, magnifique succès à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Alors,
sacré rouleur, entre parenthèses.
Il a fait penser un peu à Galopin l'autre jour, lorsqu'il est allé chercher sa victoire d'étape. Lui aussi avait vraiment tout donné dans la descente pour aller chercher cette victoire. Alors, messieurs, chute donc à quelques kilomètres de l'arrivée. On a vu Peter Sagan dans la chute. Bon, après, il s'est relevé, il n'y a pas de souci. On va prendre des nouvelles maintenant de Romain Bardet, qui lui aussi a chuté. Il a eu un peu plus de mal à se mettre debout et à repartir. Est-ce que tu as été inquiet, Cyril, lorsque tu as vu Bardet à terre, qui semblait quand même un peu atteint, hein, dans son intégrité physique?
La première inquiétude que l'on a eue, c'est de savoir si la banderole des 3 km était passée ou non. Et en fait, ça s'est joué à quelques dizaines de mètres que les coureurs soit avant le passage des 3 derniers kilomètres. Donc, lorsqu'on sait qu'on a passé les 3 derniers kilomètres, il faut le rappeler, vous prenez le temps du groupe ou du peloton dans lequel vous vous trouvez. Donc déjà, à partir du moment où on s'est dit les 3 kilomètres sont passés, il n'y a pas de conséquence sur le classement en général. Après, il a mis du temps à se relever. Mais le temps qu'il met à se relever, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il sait que son temps ne sera pas décompté.
Très bien, on va l'écouter tout de suite, Romain Bardet, puisque Georges Quirino est allé le rencontrer après la course et lui demander dans quel état il était. Romain Bardet.
Ouais, ça va. Bon, voilà, quelques petites courbatures. Hein. Rien d'anormal après une chute. Voilà, c'était assez nerveux dans le final. Et voilà, j'ai pas vu. On s'est tombé devant moi dans un virage. Des coureurs qui ont glissé. Donc ça pense à faire un beau petit strike. Et mais voilà, on a pu se relever. Par chance, c'est dans les trois derniers kilomètres. Et ça n'a pas mis à terre tout le fabuleux travail que l'équipe a fait autour de Jean-Christophe et moi toute la journée.
Romain Bardet, bon, ça va pas trop de bobo, Lucho. Malgré tout, une chute n'est jamais anodine, surtout à la veille d'un contre-la-montre aussi important.
Oui,
on rappelle
oui.
que Bardet est cinquième au général oui. et qu'il n'a que un peu plus de deux minutes d'avance sur Van Garderen. Bon,
je pense qu'il a mis du temps à se relever parce que bon, il savait très bien qu'il était déjà dans les trois derniers kilomètres, oui. donc il pouvait prendre le temps de se relever. Donc il faut pas s'alarmer sur le fait que il ait quelque chose des séquelles ou quoi que ce soit pour l'étape, pour le chrono de demain.
Y a pas de séquelles quand tu vas.
Il y a toujours un petit peu, mais là, franchement, je pense pas qu'il y ait de séquelles et qu'il va s'en ressentir demain dans le contre-la-montre. Après, c'est vrai que je suis pas devant Romain. Je vois pas exactement les plaies qu'il peut éventuellement avoir, mais par rapport à ce que j'ai pu voir à l'écran, il s'est relevé, il se regardait, il avait pas l'air d'avoir trop mal. En plus, c'est pas tombé non plus, je pense, très très vite. Donc, je pense pas que ça le handicape demain dans le contre-la-montre. Par rapport à Van Garderen, qui est quand même un de ses adversaires pour la cinquième place demain.
Ouais. Ça fait râler quand même Thierry de chuter à 48 heures de l'arrivée à Paris, à la veille d'un contre-la-montre où il aura à défendre sa cinquième place. Hein. Quand toute la journée, il le disait, quand toute la journée l'équipe a roulé pour éviter justement ce genre d'accident. Mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement, même en troisième semaine de Tour de France.
Surtout en troisième semaine, parce qu'il y a la fatigue qui s'est installée, et puis des journées de pluie comme ça, ben on sait que à tous les virages, il y a un risque de chute et c'est clair. D'ailleurs, moi, il y a un moment, j'ai vu Thibaut Pinot reculer et être pas loin de d'où s'est passée la chute. J'ai eu peur pour lui parce que ça aurait pu. Ça peut toujours être catastrophique parce qu'une chute bénigne, ça laisse quand même des courbatures pour le lendemain et on est un peu moins bien et ça dépend comment on tombe. Bon, même si on a les ostéos sur place et les toubis, ça peut être dramatique en dernière semaine.
Ouais, ça t'est arrivé, Lucho, justement, je crois, lors d'un Tour d'Italie il y a quelques années.
Bah toi, oui, hein. J'ai perdu le podium du Tour d'Italie à 3 jours de l'arrivée. J'ai chuté dans le contre-la-montre, ma roue arrière pleine et c'est bloqué. J'ai pas pu prendre le virage comme il faut et je me suis explosé sur le mur. Je suis reparti, mais le lendemain j'étais bandé de partout. J'ai pas pu. J'ai fait 20 km et j'ai abandonné le Tour d'Italie 3 jours avant l'arrivée.
On t'appelait la momie ce jour-là, non?
Ah non, mais là c'était horrible, quoi. Psychologiquement, ça a été très dur, quoi. Très très dur de louper le podium du Tour d'Italie.
Ouais, Romain Bardet qui avait quand même chuté, me dit Fred Adam, lors de la 6e étape du Tour de France. C'était sur les pavés d'Arambert. Non, c'était pas sur les pavés, c'était en allant vers Reims. Cyril, la 5e place de Romain Bardet est-elle conservable demain à l'issue de ce contre-la-montre, à ton avis?
Il a 2 minutes 07 d'avance sur son suivant immédiat. Est-ce que ces 2 minutes 07 sont suffisantes sur Van Garderen?
Faut pas qu'il s'endorme.
Faut pas qu'il s'endorme au passage. La chute n'est en aucun cas un avantage. Je pense que ça va être difficile de garder cette cinquième place.
Le top 5, c'est quand même quelque chose. Hein. Sixième, c'est
non, hein, on sort du top 5, mais ça va être pire pour celui qui va faire quatrième.
Hein. Ah oui, ben on va en parler justement. Ça c'est la place.
Moi j'ai fait 4 et 6, alors c'est terrible.
C'est la place du con.
C'est les places des cons. Ouais.
Ça m'étonne pas.
Allez. Merci.
Non, mais c'est toujours. D'ailleurs, t'as dû l'apprendre comme ça quand même, parce que à Paris. Bah, t'es le dernier à point.
Tu vas
la regarder les autres sur le podium, quoi.
T'es au pied et tu regardes les autres. Hein, voilà, ça fout les boules. Et ça fout les boules.
C'est affreux. On en parle dans un instant, justement, de ce podium du Tour de France qui va être très disputé demain. Alors, la première place, évidemment, est inaccessible. Plus de 7 minutes d'avance pour Nibali. Mais entre le deuxième et le quatrième, il n'y a que 15 secondes d'écart, c'est vraiment très très minime pour les trois hommes, Pinot, Perrault et Valverde. Faites vos jeux, messieurs, qui sera donc quatrième du Tour de France demain soir? On en parle dans un instant dans l'intégral Tour, toujours en direct de Bergerac ce soir. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
En direct de Bergerac, à la veille du dernier grand rendez-vous de ce Tour de France, le contre-la-montre de demain, 54 km entre Bergerac et Périgueux. C'est là que le podium de ce Tour de France va se décider. Je vous le disais, pas pour la première place, non. Nibali est intouchable, il va sans doute faire le contre-la-montre à fond, parce que Cyril nous disait tout à l'heure, on sait jamais, quand on est maillot jaune, on n'a pas le droit de se relâcher, même avec 7 minutes 10 d'avance. On sait jamais, hein, Nibali, mais enfin, a priori, il n'y a pas de danger pour son maillot jaune. Hein.
Non, sauf accident. C'est toujours, on dit toujours la même chose tous les ans. Oui, avec 7 minutes d'avance, il va quand même le faire à fond parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand je dis le faire à fond, il ne va pas le faire comme s'il jouait la gagne du tour, bien sûr. Mais il va le faire pour ne pas perdre de temps ou un minimum de temps, peut-être 30 secondes, peut-être une minute sur ceux qui ont un intérêt à le faire à bloc. Mais vous savez, il faut toujours garder en tête que vous pouvez avoir un incident mécanique. Vous pouvez avoir, prenons l'exemple, vous crevez à l'entrée d'un virage et puis vous allez taper un petit peu de façon à ne pas avoir trop de stress et à ne pas trop s'énerver. Vous pouvez donc gérer. Mais si vous êtes déjà à 3 minutes, vous avez perdu 3 minutes parce que vous le faites tranquille. Là, vous n'avez plus que 4 minutes de matelas. Donc, on conserve toujours le maximum de matelas. Il ne faut jamais se relâcher. Et en plus, quand on se relâche, c'est peut-être là où il y a le plus de risques.
Donc, attention, vigilance. Il a montré qu'il savait rester prudent, Nibali, depuis le début de ce Tour de France. Vigilant, encore une fois, aujourd'hui, il a échappé à la chute, à la différence d'autres, notamment le maillot vert qui, lui, est allé à terre, ou encore Romain Bardet, dont on vous parlait tout à l'heure. Alors, la première place, c'est une chose. C'est vrai qu'on l'évacue depuis quelques temps, Nibali. Bon, il a gagné, on sait quasiment depuis l'abandon de Contador qu'il a gagné ce tour, sauf évidemment une mésaventure, un accident, mais on ne lui souhaite pas. En revanche, c'est très serré pour le podium de ce Tour de France. On vous rappelle le classement général. Deuxième, donc Thibaut Pinot, il est à 7 minutes 10 de Nibali. Troisième, Jean-Christophe Perrault, qui lui est à 13 secondes derrière Thibaut Pinot. Et le quatrième, c'est Alejandro Valverde, l'Espagnol, qui lui n'est qu'à 2 secondes de Perrault et à 15 secondes de Thibaut Pinot. Trois hommes en 15 secondes, évidemment, 54 km, ça va faire la différence. Lucho, Pinot va-t-il résister au retour de Valverde et Perrault? On sait que c'est un garçon qui a fait de gros progrès en contre-la-montre, mais ces progrès seront-ils suffisants, à ton avis?
On aimerait bien que Thibaut Pinot reste sur le podium demain. Mais c'est vrai que ça sera difficile pour lui parce que c'est pas un spécialiste de chrono, et quand on entend parler Jean-Christophe Perrault qu'il aime ce genre d'exercice, que c'est un spécialiste et qu'il aime se donner dans le chrono et surtout pour rester sur le podium du Tour, on voit mal comment Thibaut Pinot peut résister même s'il est en condition. C'est clair et net. Et puis par rapport à Valverde qui est le champion d'Espagne en titre du contre-la-montre, qui est un spécialiste du chrono aussi, 15 secondes, c'est quoi? C'est rien du tout.
Perrault, ancien champion de France aussi du contre-la-montre.
Voilà, exactement. Et donc c'est vrai qu'on a peur pour Thibaut demain qu'il se retrouve au classement général à la quatrième place.
Ouais, la plus mauvaise place. On va écouter ce qu'en dit Thibaut Pinot justement, que nos reporters ont rencontré ce soir. Il avait confiance en lui, confiance en ses moyens. On l'écoute tout de suite, le porteur du maillot blanc, deuxième au classement général, Thibaut Pinot.
J'espère être bien, on verra demain. Aujourd'hui ça allait pas trop mal, j'avais bien récupéré de l'étape d'hier. Je sais, j'ai pris des infos par Michael Delage qui habite ici. Bon, c'est un chrono qui est dur mais qui est pas trop technique, donc une reconnaissance d'ailleurs. Non mais j'ai confiance, j'espère avoir de bonnes jambes et je donnerai le meilleur de moi-même, donc il n'y aura pas de regret si je suis battu quoi. Faudra pas s'écouter au début si on a mal au vent, il faudra tout donner. Ce sera le dernier effort, il reste 1h15 d'effort, donc il faudra tout donner quoi. J'espère que ça va aller. Moi, je suis confiant au moins d'embrasser un des deux, ça serait bien quoi.
Voilà, il faudra tout donner, nous dit Thibaut Pinot. Thierry, est-ce que ça sera suffisant de tout donner lorsqu'on n'est pas un spécialiste de chrono?
Non, pas forcément. Non seulement il faut tout donner, mais prier le bon Dieu avec, hein, parce que franchement, avec deux spécialistes de chrono derrière lui, à 13 secondes et à 15 secondes, malheureusement, moi je suis de l'avis de Lucho. Je ne vois pas Pinot rester sur ce podium. Je l'espère tout le temps, c'est sûr, pour avoir un podium 100% français, ça serait énorme, du moins 100%. La deuxième et la troisième place, on anticipe tellement la victoire de Nibali qu'on en oublie que c'est lui qui va gagner le tour. Pinot, même s'il met tout le cœur et toute la forme qu'il a en ce moment, je pense que quand même le spécialiste roule beaucoup mieux, même s'il y a un ton en dessous, ça risque de même jouer à quelques secondes, les 13 secondes ça suffira pas.
Et s'il dit jouer tous les pronostics,
surprenait
tout le monde demain.
On l'espère. Parce que, attention, le chrono n'est pas facile, mais même, on sait que le spécialiste reste le spécialiste.
C'est du braquet qu'il faut mettre demain.
Quel que soit le parcours, le spécialiste est un spécialiste, et puis, fera la différence quoi qu'il arrive.
Alors nos internautes sur le hashtag RMC Live ont des avis différents. Rico nous dit je sens bien Pinot pour le chrono, pas un perdreau le gars non plus, il va envoyer. Par contre j'ai peur pour Perrault paradoxalement, nous dit Rico. Et puis Tom Vincent nous dit à moins que Pinot fasse le chrono de sa vie, il va sortir du podium, seul Perrault restera, mais bien malin qui peut dire à quelle place. Donc plutôt pessimiste hein, Lucho et Thierry, on l'a entendu. Est-ce que Cyril partage l'analyse de ces deux anciens coursiers?
Tout le monde a un avis sur la question. À partir du moment où on est face à des jeunes coureurs, c'est le cas de Thibaut Pinot. On a à côté deux coureurs expérimentés, ou du moins un très expérimenté, Valverde. Un autre dont c'est l'épreuve dans laquelle il est le plus à l'aise. Alors c'est vrai, faites vos jeux, rien ne va plus. Mais moi, sur ce que j'ai remarqué depuis l'an dernier et surtout depuis le début de saison, Thibaut Pinot a appris à gérer le contre-la-montre, ce qu'il ne savait pas faire auparavant. Et on a pu le voir, entre autres, sur le dernier Tour de Suisse, où il a fait d'excellents chronos. Alors c'est vrai, il y en avait un qui était relativement difficile, c'était un chrono en bosse. Mais ce qui était le plus intéressant à remarquer, c'était sa progression tout au long de l'étape contre la montre. Et on s'aperçoit que il a commencé à gérer le rythme, à gérer son tempo, puisque il arrive à être linéaire sur l'ensemble de l'épreuve, ce qui n'était pas le cas auparavant. Or là, sur 54 km, il faut être linéaire. S'il arrive à être linéaire, avec le mental qu'il a, avec la force qu'il a, sur un parcours où il y a beaucoup d'ascensions, on est tout le temps en prise. Eh bien, moi, je me pose des questions. Et si finalement, il envoyait ou Perrault ou Valverde sur la quatrième place.
S'il y avait plus de temps entre Pinot et les deux spécialistes,
c'est ce que j'allais dire.
Je suis tout à fait d'accord.
Ouais, mais là, moi aussi.
Il ne va pas prendre un gros éclat, mais 13 secondes, c'est limite, quoi.
Je le sens hargneux.
Oui, mais il aurait fallu un plus gros matelas. L'état de forme en sa faveur, ça, c'est clair. Il va se battre jusqu'au bout, mais les autres... Ils vont se battre aussi, et ils ont la spécialité.
Tu le sens plus hargneux, Cyril, mais tu as bien dit tout à l'heure que tu étais pessimiste par rapport à Pinot pour qu'il puisse rester sur le podium.
Non, mais je suis pas.
Je suis pas.
Mais on a tous l'espoir. Attends,
Je ne suis pas BA.
Je parle de sa progression et en fin de Tour de France, ça peut jouer quand.
Ça peut jouer peut-être. Oui.
Donc je dis, il est pas battu parce qu'on dit bon, c'est le plus mauvais, il va être battu. Ok, sauf que il y a des éléments qui nous permettent et qui me permettent de dire attention, c'est pas joué.
C'est un garçon qui a fait beaucoup de progrès dans le contre-la-montre. Il a beaucoup travaillé le contre-la-montre, Cyril. On a vu aussi qu'il avait travaillé la descente, que ses progrès étaient probants en matière de descente. Si il a fait autant de progrès en contre-la-montre qu'en descente, est-ce qu'il peut justement conserver cet avantage?
Oui, et puis je crois qu'il a fait un gros progrès. Parce que l'an dernier, il est passé à côté de sa saison. Il a été à la rue, on va dire, pratiquement tout le temps. Et cette année, c'est l'an dernier où il a été, alors, on va dire, mauvais partout, dans les descentes, dans les contre-la-montre.
Il a eu du mal à redescendre un petit peu sur terre.
Et là, depuis le début de la saison, on a retrouvé quelqu'un de posé, de calme, sur lequel il y a encore bien sûr un petit peu de points positifs à prendre encore. Mais là, sur cette fin de Tour de France, je crois qu'il est devenu un vrai coursier et puis qu'il est en train de devenir aussi un gagneur. Parce que pour aller chercher la deuxième place, il va falloir courir avec cet esprit de gagneur. Alors les autres l'ont aussi, mais il l'avait beaucoup moins auparavant. Donc le mental, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La motivation, la surmotivation sont des choses que l'on ne maîtrise pas. Mais quand on l'a, eh bien on est capable de faire des miracles et de se surpasser. Et s'il y a une épreuve où on peut se surpasser par rapport à toutes les autres épreuves auxquelles on participe, c'est sur le Tour de France quand on a un enjeu. Et l'enjeu, il est de taille.
Il va falloir se faire mal à la gueule, comme on dit dans le jeu.
De toute façon, quand tu descends du vélo, il faut qu'on te porte. Ou alors, t'as pas fait ce qu'il fallait faire.
D'accord. T'as compris, Thierry?
Ben oui,
on te portait,
sûr.
Toi, en descendant du vélo de contre-la-montre?
Non, mais t'es exténué, exténué, ouais, en fait, ça c'est clair. T'arrives, tu franchis la ligne, si tu as la fleur au fusil, c'est que t'as rien fait.
C'est pas mal, parce qu'il aura les temps quand même de Valverde.
Alors oui, alors justement, on a une question là-dessus. Ticris sur le hashtag RMC Live nous dit, est-ce un avantage de partir derrière tous ses concurrents directs lors d'un contre-la-montre surtout décisif? Thierry, oui.
Ah ben oui, c'est un avantage, puisqu'il aura un carnet de route. On pourra lui dire s'il est en train de perdre des secondes ou pas, s'il progresse. C'est la progression par rapport au temps des deux autres. Donc c'est un plus.
C'est important d'avoir les chronos des autres. Alors après, est-ce qu'il faut donner les chronos,
tout
ne
dire.
Pas les donner.
Un Cyril.
Oui, même toi tu les donnais, Cyril.
Il mentait comme d'habitude.
Ah, oui. Menteur. Hein jamais il je mentait. Ne mens.
Oh non,
je ne mentais sur les écarts que je donnais.
Je me rappelle. C'est, ah oui, mais tu donnais pas tous les
c'est
écarts.
Une faute professionnelle que de mentir.
Ça dépend.
Quand tu es directeur sportif, tu perds ta crédibilité.
Ça dépend.
Tu lui dis attends, t'as 20 secondes d'avance alors qu'il a 20 secondes de retard.
Non, je t'ai dit,
c'est bien, c'est pareil. T'es au même point. C'est bon. Vas-y, c'est bon.
Il y a un moment.
T'as pas de retard. C'est bon. Tu fais super chrono.
Équipe sur le tour. Au début, il donnait bien les chronos. Ouais. Et arrive un moment, il t'encourage toujours, mais t'as plus de temps de référence.
Quand tu sentais que ça parlait moins derrière.
Mais de toute façon, il y a un moment, t'as pas besoin de donner les écarts, vous le sais toi-même.
Mais bien sûr qu'on le savait.
C'est quand t'es à la lutte que t'es. Si t'es à 5 secondes ou à 10 secondes du type de tête, bon, à ce moment-là, il y a des écarts qu'il faut donner parce que c'est ceux-là qui vont te nourrir.
Ouais. Cyril, il tenait le chronomètre un peu comme dans les bronzés font du ski. donnant confiance.
Vous avez pas fini de me charrier, là.
Non, souvent, il y avait une jolie fille qui suivait le chrono.
Tu donnais une confiance incroyable à tes
D'ailleurs, moi, les chronos, vous savez sur quoi je les faisais?
Non.
Je les faisais sur les corbeaux et les pigeons. On me disait, tiens, il y a un corbeau qui passe, tu décroches.
Bon, on verra bien en tous les cas pour Thibaut Pinot. Alors, qu'en pensent les adversaires? Parce qu'évidemment, les adversaires vont tenter de mettre à mal la domination du maillot blanc sur ce Tour de France. On est allé rencontrer tout à l'heure, Olivier Schwartz a rencontré Alejandro Valverde, le numéro 4 pour l'instant de ce Tour de France, et qui a bien l'intention de ne pas rester numéro 4 de ce Tour de France demain soir. Valverde.
Je ne suis qu'à 2 secondes du 3ème et à 15 secondes du 2ème. Alors, est-ce que je ne pourrais pas rattraper le temps? C'est possible. Est-ce que je vais y arriver? C'est très probable. Je ne sais pas si je suis un spécialiste du contre-la-montre. Les deux Français devant moi sont bons, mais meilleurs que moi, je ne crois pas. Je ne sais pas combien de temps je vais la reprendre. Les dépasser me suffira.
Ah, il est sûr de lui, Valverde.
Trop confiant.
Christophe, est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui va dire le contraire?
Tu peux jouer l'intox, dire moi je pense pas les prendre et puis paf, un coup de bracasse.
Ah non, au contraire.
Il met pas le moindre doute.
Ah là oui.
Aucun doute.
Et là je dis trop confiant.
Et même sur Perrault, par contre.
Oui, je dis trop confiant.
Ouais. Lucho? La confiance, c'est un atout, on peut
être confiant et tout, mais il faut quand même
raison garder.
Il faut garder son sang-froid quand même, parce que bon, t'as pas de tocard quand même en face de lui, et voilà. Et puis Perrault, c'est quand même il est peut-être meilleur spécialiste que le Valverde, même s'il est pas champion d'Espagne. Perrault, il était champion de France, mais bon.
Il respecte l'adversaire aussi.
Mais je suis sûr que
je vais les passer.
Il veut perturber ses adversaires.
Alors, Valverde a reconnu et venu reconnaître le contre-la-montre, le parcours de ce contre-la-montre entre Bergerac et Périgueux il y a quelques mois. Pinot, Perrault et Bardet ne l'ont pas reconnu. Je crois que Perrault et Bardet vont le reconnaître ce soir. Après l'étape, ils devaient aller faire un tour là-bas. Oui, Lucho, tu fais la grimace. C'est pas
en voiture. Bah, écoute, moi, très honnêtement, je privilégie l'étape de repos, le repos après l'étape, parce que je crois que c'est très important la veille d'un contre-la-montre et la veille d'un grand événement pour Perrault et puis pour Bardet, surtout pour Perrault, pour rester sur le podium. Donc moi, franchement, si on doit reconnaître le chrono, c'est le reconnaître demain matin sur le vélo.
Parce que déjà
Perrault va partir très tard l'après-midi, donc ce soir il peut se permettre de se reposer, d'aller à l'hôtel, d'allonger ses jambes et tout. Là il va faire de la bagnole, il va faire Périgueux, Bergerac, Périgueux. Il va falloir qu'il revienne à l'hôtel. Ouais, attends Thierry, ça va lui faire des bornes. C'est de la fatigue en plus.
Bien, et c'est pas dans la tête.
C'est pas.
Moi, je pense que c'est pas mal.
Ouais, mais écoute, moi je suis pas ton ami, moi je vais te dire, il peut prendre le vélo demain matin à 9h30, il fait une bonne nuit de sommeil, il va reconnaître le chrono avec son directeur sportif, là, accompagné de la voiture, il peut se faire un petit peu derrière voiture s'il a envie demain matin pour faire du rythme dans le chrono et tout, pour vraiment se jauger et tout, mais là ce soir c'est la récupération la veille d'un grand chrono. Eh ben demande l'avis de Cyril, moi je sais pas s'il sera d'accord avec moi Cyril. Bon, Cyril il nous a jamais fait reconnaître des chronos la veille du Tour de France dans la bagnole, quoi. Jamais, jamais.
Cyril,
quand on fait je vais regarder déjà où est l'hôtel, mais ils sont peut-être logés à Périgueux.
Ah, sait-on jamais.
Ah oui, alors si ils sont logés à Périgueux, c'est différent. Mais
très bien, on va continuer de parler de ce chrono de demain avec la victoire d'étape. Ça, ce sera pas pour Thibaut Pinot, ni pour Valverde, ni pour Perrault, même, sait-on jamais. Hein, lors d'un dernier chrono du Tour de France, on peut être dans une euphorie totale. Non, la victoire devrait revenir à Tony Martin. On va en parler dans un instant. Tiens, le mot de la fin pour rester touche sur le hashtag RMC Live qui nous dit de toute façon, Pinot sera sur le podium des Champs-Élysées grâce à son maillot blanc. La quatrième place ne serait pas un drame. Bah ouais, mais moi je trouve que ce serait quand même mieux qu'il soit sur le podium. Ce serait pas un drame, évidemment. Il aurait quand même réussi son tour en étant quatrième. Mais voilà, on préférait qu'il monte deux fois. L'ami Thibaut, et on aimerait bien deux Français sur le podium. À Valverde, il est trop confiant. Allez, hop, quatrième, ça lui suffira.
Très bien. C'est toi qui fais le classement. Donc.
Voilà, exactement. C'est comme ça. On va mettre des petites aiguilles.
C'est pareil. Demain, c'est Tony Martin qui va gagner.
ça
tu l'as dit. C'est comme ça.
Tout le monde va être d'accord.
Tony Martin, il a pas de chance. On parle même pas de la victoire d'étape.
On en parle dans un instant. Dans un instant, on va parier, mais on va tous être d'accord, là, sur ce coup-là. Benji va nous donner les cotes. À mon avis, elles sont assez impressionnantes en faveur de Tony Martin. À tout de suite pour la dernière ligne droite de l'intégral tour à Bergerac. À tout de suite.
RMC, intégral tour.
Toujours à Bergerac ce soir, au terme de la 19e étape du Tour de France, à la veille du dernier grand rendez-vous, le contre-la-montre de Bergerac à Périgueux, 54 km. On a parlé de la lutte pour le podium, on va parler dans un instant de la lutte pour la victoire d'étape, mais tout d'abord, place à notre jeu Vision sur le Tour. Ce soir, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Je sais pas à quoi elles vont bien pouvoir vous servir, vu le temps qu'il fait, mais enfin, pour gagner, il faut répondre correctement à la question que va vous poser Luc Leblanc et son ton suave. Allez-y, mon cher Lucho.
Arrête de me faire éclater de rire, là. Bête. Alors, Navardauskas remporte l'étape du jour, mais quel coureur a chuté à quelques kilomètres de l'arrivée?
Oh, il le dit tellement bien. Il pourrait doubler les films. Je sais pas quel genre de film. Si vous pensez que la bonne réponse est Sagan, vous envoyez A par SMS au 73216. Et si vous pensez que la bonne réponse est Christophe, vous envoyez B par SMS au 73216. Bonne chance. Voilà. Elle était plus dure, celle-là, hein, Thierry, hein.
C'est la troisième. Non, mais je pense pas que ce soit
pour... pas troisième machin, là.
T'es pas tombé, toi, Christophe?
Non, pas moi, mais il y en a un autre.
Non, mais Christophe, t'es pas tombé?
Non, je suis resté dans mon camion, moi, tiens, bien tranquille.
J'étais inquiet, j'étais inquiet.
Allez, on t'est loin de réagir, hein. Oh là, il est fatigué.
Allez, on va parier les
kits. Allez, on va voir si vous êtes Paris RMC, Tour de France.
Ah, ça me fait marrer, ça, Lucho. C'est blague. Il a sorti une blague. La blague du Tour de France.
Non, c'est Thierry qui l'a sorti. Je voyais que t'es réagissais pas. Que
il a pas réagi, mais fatigué,
je t'ai compris. Benji, elle était drôle, cette blague, non?
Il a les yeux rouges, de toute façon, il est mal.
Ça va, Benji?
Salut, Benji.
Il est pas là.
Il est pas là.
Ah, Benji.
Il fait grève aujourd'hui.
Abandon.
Non, mais en fait.
Salut, monsieur. Salut. Benoît Boutron qui a fait éruption en studio pour pas balancer et qui m'a déconcentré.
Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui. La côte, elle est pourrie.
Je vais laisser Martial et il va le faire à ma place.
1,15.
Tony Martin, 1,15. Vas-y, Martial. Exactement. Tony Martin, 1,15. Vanguard de Rennes, 11. Nibali, ça monte, 18.
Bah après, ça s'emballe.
Viatovski, 18. Garen Thomas, 24. Ouais. Ouais, ça monte. Perrault, pourquoi pas 28, Perrault.
Perrault, 28. Perrault. Eh ouais.
Pour gagner, il faut miser sur lequel, là? Pour gagner le classement général final.
Ah, oui, il faut calculer. Tout sauf Tony Martin. Il faut que Thierry joue Tony Martin et que...
On va tous donner un autre. Et ou alors, on peut faire comme hier, Benji, c'était pas mal, ça. On mise sur Martin parce qu'on est sûr qu'il va gagner et on mise sur un deuxième pour...
Ouais, mais c'est pas très rentable si Martin gagne. Ouais. Ça valait le coup avec Nibali parce que la cote était à 2,90, donc on triplait la mise. Là, ça vaut pas le coup. C'est Bourguet qui va parler en premier. premier. Est-ce que tu m'énerves un peu à coller ma roue à chaque fois tactiquement pour tout ça pour donner comme moi.
Qu'est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui?
Vas-y,
à part Tony Martin qui est trois fois champion du monde de chrono, il s'est entraîné pendant tout le tour. Il a fait des raids comme a gagné son étape
de manière très impressionnante.
Le lendemain, on pensait fatigué, mais non, il a roulé pour son équipier. Kwiatkowski, qui a d'ailleurs sauté 10 minutes après, ça a pas duré longtemps. Non, mais rien ne peut lui échapper. Tony Martin, à part une chute, bon, alors t'as, c'est
Tony
lui qui
Martin
va gagner.
Pour toi, Tony Martin.
Ah bah, bien sûr.
De toute façon,
eh, excuse-moi, mais là.
Non, t'es le dealer, le leader.
Le dealer. Non, le dealer, c'est pas moi. Téléphone à ton dealer.
On vient d'avoir une information.
Je l'ai fait exprès. Non, hein,
téléphone à ton dealer, Lucho, mais moi, je suis le leader de la course à la rigueur, mais pas plus.
Fais gaffe, Lucho, tu as déjà des détracteurs sur le hashtag RMC.
Ah ouais. On va pas remettre sur la table.
Qu'il peut monter, il peut monter les bosses un peu vite.
J'ai aussi le temps. Bon, enfin bon, je vais retourner la page. De toute façon, moi je pense que Cyril va mettre Tony Martin et Tony Martin va chuter à 5 km de l'arrivée. Je vais mettre Vanguard Oren.
Vanguard Oren pour Lucho. Cyril.
Bien moi, j'hésite entre Nibali et Rogers.
Eh oui, non mais Rogers,
c'est pas mal. Hein.
Rogers, trois fois champion du monde du contre-la-montre quand même. Hein.
Oui, aussi.
Bon, c'était il y a quelques années. Depuis, il a fait plus de progrès en montagne que.
Bon, ça veut rien dire ça.
Ouais, non, ça veut rien dire. Donc, ok, excuse-moi.
Moi et Christophe, très bonne.
Cyril, tu peux jouer les deux. Hein. 18 Nibali et 40 Rogers, tu peux largement jouer les deux.
Et
moi, je peux faire.
Ben, je joue les deux.
Tu joues les deux?
Ouais.
Et je peux mettre Vanguard Oren et puis Nibali alors?
Oui, oui, tout à fait.
Et vous pouvez mettre tous les spécialistes, ouais. Vous êtes sûr de gagner comme ça?
Bon, moi je vais mettre Martin et je vais mettre Jean-Christophe Perrault. Voilà.
Allez, moi je vais mettre Kirienka, comme ça on va chercher Bourgui, allez messieurs.
Ah, allez-y, je vous regarde dans le rétro, je vois rien encore.
Très bien, merci Benji.
Ciao. Salut Benji.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.